Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié chez Actes Sud en 2014, « Des vers de terre et des hommes » est un essai de vulgarisation scientifique et écologique de Marcel Béboucher, spécialiste des lombriciens. Avec une préface associée à Patrick Lavelle et Bruno Sirven, le livre propose une vaste synthèse sur la vie souterraine, la formation des sols et les relations entre animaux, végétaux, micro-organismes et activités humaines. Son point de départ est simple mais décisif, le sol ne constitue pas un support inerte pour les cultures, mais un milieu vivant continuellement transformé. Les vers de terre y servent de révélateurs et de moteurs. Dans le prolongement des intuitions de Charles Darwin, Boucher examine leur diversité, leur histoire évolutive et leur action matérielle sur les sols. Il relie ces mécanismes à des enjeux d'agronomie, de fertilité, de recyclage des déchets et de dégradation écologique. L'ouvrage défend surtout une révision du regard humain, comprendre les écosystèmes suppose de prendre au sérieux les processus discrets qui se déroulent sous nos pieds. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les lombriciens comme instrument de lecture du fonctionnement des sols, le choix des vers de terre comme fil directeur donne au livre sa cohérence originale. Marcel B. Boucher ne les présente pas comme de simples auxiliaires utiles aux jardiniers, mais comme des organismes qui permettent de lire les transformations du sol. Leur activité rend visible des phénomènes habituellement difficiles à observer sans perturber le milieu de déplacement de matière, incorporation des débris végétaux, creusement de galeries et redistribution des éléments nutritifs. Cette perspective prolonge les observations de Darwin tout en cherchant à décrire plus précisément ce qui se passe en profondeur. Les lombriciens deviennent ainsi des sondes biologiques, au sens où leur présence, leur diversité et leurs traces renseignent sur l'état d'un écosystème. Les turricules, visibles en surface, ne résume toutefois pas leur action, une part importante des déjections et du travail de remodelage se produit dans les galeries. Le livre invite donc à dépasser une vision superficielle du terrain. Il montre que la compréhension d'une parcelle, cultivée ou non, exige de considérer son volume, ses organismes et ses circulations internes. Cette approche replace la faune du sol au centre de la connaissance écologique, plutôt que dans une rubrique secondaire de la biologie. Deuxièmement, le brassage biologique qui construit la structure et la fertilité du sol. Le mécanisme central analysé dans le livre est le passage répété de la terre et de la matière organique par le tube digestif des vers. Ce processus ne se réduit pas à une consommation de sol, il transforme les matériaux, les mélange et les redistribue. Les déjections associent particules minérales et matières organiques, tandis que les galeries modifient l'organisation physique du terrain. Boucher insiste sur l'ampleur de ce travail, puisque des centaines de tonnes de terre par hectare peuvent être concernées chaque année selon les contextes et les populations présentes. La conséquence écologique est majeure, l'aération, la porosité et la stabilité structurale du sol dépendent aussi de cette activité animale. Les galeries favorisent la circulation de l'eau et de l'oxygène et peuvent offrir des voies de pénétration aux racines. Le brassage facilite également les interactions entre matières organiques, minéraux et communautés microbiennes. Il ne faut pas y voir une recette mécanique garantissant à elle seule la fertilité, car celle-ci dépend du climat, de la végétation, de la texture du sol et des pratiques. Mais le livre établit que négliger les lombriciens revient à ignorer un agent actif de la dynamique physique et chimique des milieux terrestres. Troisièmement, une écologie du sol fondée sur les relations entre organismes et énergie solaire. Le sous-titre situe les vers de terre dans une conception plus large des écosystèmes fonctionnant à partir de l'énergie solaire. Les végétaux captent cette énergie et produisent la matière organique qui alimente, directement ou indirectement, les réseaux du sol. Les lombriciens interviennent alors dans la transformation des résidus végétaux et dans leur mise en relation avec la fraction minérale. Leur rôle ne peut donc être isolé de celui des racines, des micro-organismes, des plantes et des autres animaux du sol. Boucher propose une lecture relationnelle, les fonctions écologiques résultent de coopération, de complémentarité et de circulation de matière. Non de la performance d'un organisme unique. Cette idée permet de comprendre pourquoi la fertilité naturelle ne correspond pas simplement à un stock d'éléments chimiques. Elle dépend de la capacité du système à faire circuler et rendre disponibles ces éléments dans le temps. Le livre critique ainsi les raisonnements trop fragmentés qui séparent abusivement biologie, agronomie, géologie et chimie. En suivant les lombriciens, le lecteur est conduit vers une vision systémique du sol. Celui-ci apparaît comme un milieu organisé, vivant et historique, dont les propriétés émergent de multiples interactions plutôt que de la seule intervention humaine. Quatrièmement, diversité, histoire évolutive et complémentarité des formes de vie souterraines, des vers de terre et des hommes ne traitent pas les lombriciens comme un groupe uniforme. L'ouvrage souligne leur ancienneté évolutive et leur adaptation progressive au milieu terrestre. Cette profondeur historique compte car elle explique en partie la cohérence entre les vers, les sols et les communautés végétales. Les espèces et catégories écologiques ne occupent pas toutes les mêmes horizons ni ne manipulent les mêmes ressources. Certaines vivent surtout près de la surface et participent à la fragmentation des débris, tandis que d'autres circulent dans le sol ou creusent des galeries plus verticales. Cette diversité produit des fonctions complémentaires: incorporation de matière organique, brassage des horizons, création de porosité et redistribution des ressources. Le livre refuse donc les généralisations qui transformeraient tout ver de terre en indicateur identique ou en solution universelle. Une observation utile doit tenir compte des espèces, du type de sol, de la couverture végétale et de la saison. Cette attention aux différences biologiques renforce la critique des approches qui mesurent un seul paramètre avant de tirer des conclusions générales. Elle rappelle aussi que protéger les sols implique de préserver des habitats et des conditions de vie, non seulement de compter des individus. La biodiversité du sol est ici envisagée comme une condition de fonctionnement, pas comme un simple inventaire. En dernier lieu, les pratiques agronomiques mises à l'épreuve de la vie souterraine, la portée critique du livre concerne directement les pratiques agricoles et, plus largement, les manières humaines de gérer les terres. Si les lombriciens contribuent au drainage, au brassage, au recyclage des éléments et à la formation de structures favorables aux racines, les interventions qui détruisent leurs habitats ou rompent les cycles biologiques ont des effets qui dépassent la perte de quelques espèces. Boucher met en regard les fonctions du sol et les conséquences potentiellement dévastatrices de certaines pratiques agronomiques. Son argument ne consiste pas à idéaliser toute nature non cultivée ni à proposer un modèle technique unique. Il invite plutôt à évaluer les procédés de culture à partir de leurs effets sur le milieu vivant. Cette exigence déplace le critère de réussite, le rendement immédiat ne suffit pas à juger de la qualité durable d'un système. Le livre ouvre aussi vers des usages plus larges des connaissances sur les lombriciens, notamment la restauration de la fertilité de sols dégradés et la valorisation de matières organiques. Sa réserve envers certaines technosciences vise surtout leur tendance à réduire des systèmes complexes à des variables isolées. Une agronomie plus rigoureuse devrait associer observation de terrain, compréhension des interactions et prudence face aux solutions simplificatrices. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux lecteurs intéressés par les sols, l'écologie, le jardinage, l'agriculture et les sciences du vivant. Il sera particulièrement utile aux agriculteurs, maraîchers, gestionnaires de terrain, enseignants et naturalistes qui cherchent à relier les phénomènes observables dans une parcelle aux mécanismes biologiques qui les produisent. Les lecteurs non spécialistes peuvent y acquérir un cadre solide pour interpréter turricules, galeries, matières organiques et fertilité autrement que comme des détails techniques. En raison de son ambition scientifique et de son vocabulaire parfois spécialisé, il demande néanmoins une lecture attentive, surtout à qui découvre la biologie des sols. Sa singularité parmi les ouvrages consacrés à la vie souterraine tient à la place accordée aux lombriciens comme voie d'accès à l'ensemble de l'écosystème terrestre. Il ne se limite ni à un guide pratique sur les vers de terre, ni à un plaidoyer écologique général. Il associe histoire naturelle, réflexion évolutive, mécanismes pédologiques et critique des pratiques humaines. Cette amplitude permet de comprendre pourquoi les vers de terre importent, mais aussi pourquoi leur rôle ne peut être séparé des racines, des micro-organismes et de la matière organique. L'apport intellectuel majeur du livre est donc un changement d'échelle, il apprend à considérer le sol comme un système vivant, profond et dynamique. Son apport pratique consiste à encourager des décisions agricoles et environnementales mieux informées par les processus biologiques réels. Si vous souhaitez soutenir Marcel B., Boucher, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.